Bonjour à tout et chacun. C'est vrai, c'est le moment de la parole. Et vous savez que nous arrivons à la fin de notre série Ecclésia, ça a été dit, notre série sur les images allégoriques de l'Église. Alors, au travers de cette série, nous espérons vous avoir montré quelques facettes de l'Église et de la manière de comment Dieu lui-même l'a imaginé, désiré, conçu et établi. Il est mort. Merci. Oh là là, il n'y a rien. Bon, en Afrique, je n'utilisais pas les micros. Hein. Mais non. Bon, on va essayer. Non. On enlève le. Oui. Voilà. OK, voilà. On a toujours la réserve. Même pour la louange, même s'il n'y avait pas les leaders, on l'a eu quand même, vous voyez. Donc, on reprend. Je disais que on a essayé de voir, de vous montrer de comment Dieu lui-même l'a imaginé, désiré, conçu et établi dans le monde. Alors, il est vrai, peut-être vous n'avez pas suivi toute la série. Je vous rappelle que les vidéos sont toujours sur YouTube et sur le site, vous trouvez aussi les audios de toutes les prédications. Vous n'avez rien perdu, vous pourrez rattraper si vous n'étiez pas présent. Alors, le thème qui nous préoccupe aujourd'hui est l'Église, le corps de Christ. Alors, lorsque je vous dis corps, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il y a, je vous montre déjà pour, oui, qu'est-ce qu'il fait? Pour que vous sachiez où, dans quelle direction nous allons. Voilà le sommaire, vous voyez, ça va être long. Alors j'espère que vous n'avez pas déjà mis le rôti dans le four. Autrement, on va vous donner la permission de partir si c'est trop tard. Hein? Mais voilà. Lorsque je dis corps, à quoi je pense? Alors, je pense à un ensemble de membres. La tête, les bras, les mains, les jambes, les pieds, les yeux, les oreilles. Et je vous en passe. Tout cela pour dire qu'un mot qui convient à cette image du corps, c'est le mot ensemble. Le corps est un ensemble de membres. Je pense qu'un bras séparé du corps n'est pas un corps. Un membre isolé ne constitue pas un corps. Et donc, plusieurs membres divisés et isolés ne forment pas un corps. Le corps implique unité. Comme il nous dit en Corinthiens 12:12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Parce que nous parlons toujours du corps de Christ. Donc, puisque le corps physique est un ensemble de membres, il en est de même pour le corps de Christ. Mais dans ce verset que nous venons de lire, il y a quelque chose qui ouvre mon premier point du thème d'aujourd'hui. L'Église universelle, le corps mystique de Christ. Il est dit « malgré leur nombre, ainsi en est-il de Christ ». Alors, qui connaît le nombre des membres du corps de Christ? Cette expression, malgré leur nombre, me fait penser à la dimension de ce qu'on appelle l'Église universelle. C'est une dimension du corps de Christ qui nous échappe. On est devant l'union des chrétiens, de tous les peuples, de toutes les ethnies, de toutes les langues, mais aussi de tous les temps, de tous les siècles, de Abel dans la Genèse jusqu'au retour du Seigneur dans l'Apocalypse. Tous dans le même corps, l'Église universelle, le corps mystique de Christ. C'est une dimension qui doit nous garder humbles. Dieu seul connaît les membres de l'humanité qui sont entrés ou qui entreront dans l'union avec lui au travers de Jésus-Christ. Nous parlons ici de personnes, d'individus, jamais de religion ou de dénomination ou d'œuvre chrétienne. Il faut dire que l'infiniment grand, l'Église universelle, elle est spirituelle et invisible. Ce qui est visible dans l'infiniment petit, ce sont les églises locales. Notre église, l'Escale, en fait partie. Mais il ne faut surtout pas croire que l'église locale ne soit pas importante par rapport à l'église universelle. L'église locale, elle est et reste la partie du corps de Christ visible et active dans le monde. Mais on va reprendre cela par la suite. Alors, mon deuxième point, l'origine du corps de l'homme, l'origine du corps de Christ. Si nous revenons à notre corps physique, qui nous est proposé en tant qu'image allégorique de l'Église, voilà que nous savons qu'encore aujourd'hui, avec l'avancée des découvertes dans le macroscope et dans le microscope, les chercheurs cherchent. Eh bien, c'est leur métier. Et chaque jour, ils découvrent des nouvelles choses dans le fonctionnement du corps humain. Mais ce qu'ils n'ont pas encore découvert, c'est le sens et l'origine de la vie. Les hypothèses de hier sont substituées par celles d'aujourd'hui et elles laisseront la place à celles de demain. Pourtant, ce qu'il cherche, il est connu depuis toujours et il se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme, un être vivant. Donc Dieu a façonné le corps de l'homme et de la femme avec de la terre et lui a donné son souffle pour qu'il devienne un être humain, un organisme vivant. Il y a aussi Job qui nous rappelle au chapitre 27 que aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Alors vous voyez, ça ne suffit pas de respirer pour être vivant. Il nous faut aussi le souffle de Dieu pour me considérer vivant. Donc, cette première image de la création de l'homme, l'homme physique, m'a fait réfléchir pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai réalisé que l'homme-corps a été créé par Dieu le Père et l'Église-corps a été créé par Dieu le Fils, Jésus-Christ. En effet, en Matthieu 16, c'est écrit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, mes amis, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et lorsqu'on réfléchit, on découvre que des choses apparemment sans lien, elles font partie du projet global de Dieu. Au travers de la confession de foi de l'apôtre Pierre et avec la nôtre aujourd'hui, le Christ bâtit son Église composée d'individus. Nous avons déjà entendu que le mot « Église » est la traduction du mot grec « ecclesia », qui signifie « assemblée », ensemble de personnes réunies avec un but commun. Notre but commun, c'est Jésus. Voilà, nous sommes au point 3, je vais un peu vite, comme ça la routine ne brûle pas. Jésus est la tête du corps. En Colossiens 1, 18 et Éphésiens 1, 22, nous est parlé de cela. Il, Jésus-Christ, est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef, pour tête suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église n'est pas une institution, une organisation, une association, un club. Elle est le corps de Christ. Et Christ en est la tête. Alors même si dans une Église locale comme la nôtre, il y a des responsables qui ont été établis par le vote des membres, Jésus-Christ reste et demeure l'unique, le seul chef et directeur de son Église. C'est lui qui est le seul leader et sa vision est d'amener cette Église auprès de lui au ciel. Mais nous savons que jusque-là, cette Église est encore comme une fiancée qui se prépare à la rencontre de son époux, comme nous l'a bien rappelé Claudia dans son message. Et comme le dit aussi Paul dans 2 Corinthiens, tout ce que le corps fait est donc commandé par la tête. Tous les organes du corps ont en lien une relation directe ou indirecte avec la tête. Raison pour laquelle l'Église-corps ne peut rien sans la direction donnée par Jésus, par le Christ. Une Église sans le Christ n'est pas une Église. Permettez-moi de la comparer à un zombie. Elle a un semblant de corps, mais elle n'a pas de vie. Mais il y a plus que cela. Car nous avons vu que le premier corps, dans la Genèse, il a dû recevoir le souffle de Dieu pour devenir un être vivant. De même, l'Église locale a aussi besoin constamment du souffle de Dieu, de la présence du Saint-Esprit pour être le corps de Christ, pour devenir un organisme vivant. Cela est vrai pour l'Église dans son ensemble, de même que pour chacun de nous. En effet, Luc nous a rappelé que nous sommes le temple de Dieu, le temple habitation de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ. Alors posons-nous cette question. Sommes-nous vivifiés par l'Esprit de Dieu? Où sommes-nous encore un tas de terre inerte, avec une apparence de vie, mais spirituellement mort? C'est une question importante qui demande une réponse pour chacun de nous. Alors, l'image de l'Église, corps de Christ, est une métaphore qui présente l'Église non pas comme une organisation, mais comme un organisme vivant. Un organisme vivant constitué de nombreuses parties reliées et interdépendantes. Christ est la tête de ce corps, et on pourrait dire que le Saint-Esprit en est le sang. Nous trouvons ici, enfin, le cadre complet de la création de l'Église, corps de Christ. Dieu le Père a transformé un tas de terre en être vivant, en créature à son image. Dieu le Fils a bâti l'Église, son corps, sur la base de la foi des individus. Dieu le Saint-Esprit transforme des hommes et des femmes en membres du corps de Christ. Cela nous introduit au prochain point. Qui sont les membres de Christ? Nous entrons dans une étape qui nous concerne plus directement. Donc l'Église est un corps et le corps est composé des membres. Mais qui sont ces membres? Et sommes-nous des membres de ce corps? Vous savez, dans l'Église bâtiment, comme aujourd'hui, nous, ce matin, on trouve toutes sortes d'hommes et de femmes, mais cela ne fait pas de nous automatiquement des membres de l'Église corps de Christ. En Jean 1,12, nous lisons: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il s'agit de toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et sont ainsi devenues enfants de Dieu. L'Église, corps de Christ, est l'ensemble des enfants de Dieu. Mais c'est plus que cela. C'est aussi des hommes et des femmes qui sont des pierres vivantes, utiles à la construction du temple de Dieu. Des individus qui s'unissent pour former une famille avec des liens d'amour fraternel. Des hommes et des femmes qui sont travaillés par l'Esprit de Dieu, comme l'agriculteur travaille son champ pour donner un fruit, un grand 100, une autre 60, une autre 30. Des individus qui se préparent à la rencontre de Christ, comme une fiancée se prépare pour rencontrer son époux. Alors, si vous étiez présent dans les différentes séries, vous pouvez me dire que c'est quoi la suite? Quelqu'un se rappelle? Qu'est-ce que ça venait après? Ah, j'ai entendu un troupeau. Oui, des individus qui suivent le grand berger car reconnaissent de faire partie de son troupeau. Et encore des hommes et des femmes qui restent sur la brèche, équipés avec toutes les armes de Dieu, ou des individus qui reconnaissent d'être malades et avoir besoin de soins, ou des hommes et des femmes qui restent à l'école de Dieu pour mieux apprendre à le connaître et à le servir. Et finalement, aujourd'hui, l'ensemble de personnes qui ont le statut d'enfant de Dieu. Voilà un petit aperçu de ce que c'est l'Église, corps de Christ. Mais vous savez, tous ces aspects, nous pouvons déjà les retrouver dans l'Ancien Testament, se référant au peuple d'Israël. Mais l'Ancien Testament ne décrit jamais Israël comme le corps de Dieu. Il s'agit là d'une image différente qui se réfère au peuple de Dieu sous la nouvelle alliance. Par l'œuvre de Jésus à la croix, le rideau du lieu très saint est déchiré et nous avons libre accès à la présence de Dieu. Le mur de séparation entre les individus a été renversé. Comme nous dit Paul en Éphésiens 2, 14 et 16, car il est notre paix, Jésus, lui qui des deux, juif et grec, n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Tout cela est possible et se concrétise si nous sommes des membres qui font partie du corps de Christ. Ces membres se réunissent dans l'église locale bâtie par le Christ. Je n'ai pas peur de me répéter en disant que l'église locale est importante, car elle est et reste la partie du corps de Christ visible et active dans le monde. Alors, dans le prochain point, on va parler de l'unité, car les membres du corps de Christ sont appelés à travailler en coordination, à travailler dans l'harmonie et l'unité, exactement comme cela se passe dans notre corps physique. Alors, nous avons vu dans l'introduction que plusieurs membres divisés et isolés ne forment pas un corps. Corps implique unité. Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns et des autres. Cela démontre bien l'importance et même la nécessité pour le corps de Christ d'être uni. Lorsqu'on parle d'unité, on ne parle pas de doctrine unique ou d'absence de divergence. L'unité implique que malgré les différences, nous puissions tous nous retrouver autour d'un seul point commun, Jésus-Christ ressuscité. Il nous arrive d'avoir des intérêts divergents, mais nous sommes appelés à travailler tous ensemble dans un but commun. Et c'est autour de ce but commun que l'Église doit se retrouver. L'Église est un avec le Christ, et Christ est un avec l'Église. Il ne forme que un, comme le Père et Jésus ne forment que un. Comme nous lisons en Jean 17, 20, Jésus parle, prie, ce n'est pas pour eux, pour les disciples, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme moi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà pourquoi les membres de ce corps que nous sommes, nous devons prendre conscience que Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Il est notre source, il est notre raison d'être, il est le but de notre vie. L'Église locale est visible, extérieure, apparente, composée d'hommes et de femmes qui ne sont pas parfaits. À ce titre, elle est imparfaite. Jean-Jacques nous a rappelé que l'Église est aussi le lieu où on reçoit la guérison. Claudia nous a rappelé que l'Église est une salle de sport pour entraîner et pour créer de plus en plus d'unité. Luc nous a dit que les pierres utilisées pour la construction, il faut les travailler pour qu'ils puissent vraiment prendre leur place dans le temple. L'Église locale est imparfaite, c'est vrai, mais ensemble, nous avançons vers la perfection pour recevoir un nouvel habit sans tache ni ride que Jésus nous offrira à son retour. Ne cherchons donc pas l'Église qui répond parfaitement à mes désirs, à mes besoins personnels. Cherchons plutôt l'Église dans laquelle mes dons et mes talents pourront être au service du corps de Christ. En effet, l'Église locale est appelée à être la manifestation du corps de Christ sur la terre. Chaque fonction et chaque élément du corps humain nous donne une idée du fonctionnement aussi de l'Église en tant que corps de Christ. Mais il nous faudrait au moins une année de prédication pour les énumérer et les développer. Alors je vais me limiter à celles plus externes et visibles dans ce dernier point de mon message. Vous savez, le monde ne voit que l'aspect extérieur du corps de Christ. Il faut donc que l'Église soit une manifestation aussi complète que possible du ministère que Christ a exercé sur la terre. L'Église, corps de Christ, agit par l'intermédiaire des dons, des talents et ministères spirituels. Lorsque l'Église est fidèle, Christ est pleinement manifesté dans son corps terrestre. Lorsque l'Église n'est pas fidèle, la vision que le monde a de Christ est déformée. Paul a dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Alors, chers amis, loin de là de nous recevoir ce reproche que Paul a écrit aux Corinthiens, réfléchissons à comment nous utilisons notre corps. Comme Jésus-Christ guérissait, pardonnait, consolait, aimait, servait, priait, annonçait la bonne nouvelle, il enseignait, il bénissait, l'Église locale est appelée à poursuivre toutes ses actions au travers des dons que le Seigneur confie à chacun de ses membres. Alors l'Église peut être la main tendue de Christ vers les malheureux, les malades, les réjectés, les pécheurs. Oui, nous avons un Dieu qui tend la main vers l'humanité en détresse. L'Église peut être aussi le regard bienveillant de Christ posé sur ce qu'on oublie. Nous avons un Dieu qui regarde l'humanité avec amour. De quelle manière nous regardons les gens autour de nous? L'Église peut être aussi le corps, le cœur de Jésus, qui est ému de compassion pour tous. Nous avons un Dieu de miséricorde et lent à la colère. il est notre exemple. L'Église peut être aussi la bouche de Jésus, qui proclame la bonne nouvelle du salut, qui parle selon la vérité et qui prophétise selon l'inspiration du Saint-Esprit. Nous avons un Dieu qui nous parle, les amis, un Dieu qui nous enseigne au milieu de ce brouhaha de ce monde. Nous sommes aussi appelés à porter ces paroles dans le monde. Et encore, l'Église, parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes aussi les pieds de Jésus qui vont jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, Dieu est un Dieu qui nous met en mouvement, un Dieu qui nous envoie, c'est un Dieu qui nous dit « Va vers cette personne, il faut la saluer, il faut l'embrasser, il faut prier, il faut lui faire un sourire. » Dieu nous met en mouvement. Merci Eliezer, tu veux déjà prendre place? Donc, parce qu'elle est le corps de Christ, l'Église est au service de la tête, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus. Si je suis membre de l'Église locale, étant soumis à Christ, ce que je vais faire sera conduit par son esprit et je vais le glorifier. L'Église locale n'est pas l'égale de Jésus-Christ. Elle n'est rien sans le Christ. C'est lui qui lui donne toute sa gloire et sa puissance et son amour. Alors, en ce petit moment, avec un petite musique de sous-fond, je vais entrer dans un temps de réflexion, des questions que vous pouvez réfléchir là où vous êtes. Est-ce qu'on réalise que Dieu est l'origine et le but de l'Église? Peut-être tu ne le réalises pas. Si tu as reçu un corps physique, c'est pour le mettre au service du corps de Christ. Est-ce qu'on comprend que le but de Christ est d'être un avec nous? Peut-être tu ne réalises pas encore que si tu es uni au Christ, ta vie, tes pensées, tes actes seront conduits par lui et non pas par ta volonté. Est-ce qu'on saisit que ce que c'est d'être un membre du corps de Christ? Peut-être tu n'as pas encore réalisé que corps de Christ signifie être membre les uns des autres. Il n'y a plus de mur de séparation. Il n'y a plus de place pour les querelles. Nous sommes un avec l'autre. Est-ce que je connais mon rôle dans le corps de Christ? Peut-être tu te poses encore la question de quoi faire dans l'Église. N'attends pas de recevoir un ordre divin. Mets-toi en mouvement. Informe-toi des possibilités, des besoins. Sache qu'il y a une place qui t'attend, une place pour toi. Est-ce que je suis un membre qui manifeste Christ dans le monde. Peut-être que tu penses ne pas être compétent. Il vaut mieux que les spécialistes effectuent le travail. Mais Jésus t'envoie pour être sel et lumière. Tu as toutes les compétences nécessaires pour être son témoin dans ta maison, dans ton quartier, partout où Dieu va t'envoyer avec le Christ. Voilà, c'est quelques points que je vous laisse de réflexion. Nous sommes tous concernés. Et je vais finir avec la prière. Seigneur notre Dieu, devant cette image du corps de Christ, on se pose la même question du psalmiste. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos forces et nos faiblesses. Et pourtant, depuis toujours, tu désires une relation d'amour avec nous. Pourtant, tu as un rôle et une tâche à nous confier dans ton corps, dans ce monde. Seigneur, humblement, nous te disons merci. Merci de vouloir faire de nous des membres à plein titre de ton royaume et de ton corps qui est l'Église. Amen.